Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania, Pivot, La Conversation et Bel Âge. Au programme, Déboires et merveilles du couple pris en otage par le ronflement. Proche aidante, les femmes font le gros du travail et elles sont fatiguées. L'art au secours des enfants ukrainiens et bien manger à petit prix. Bonne écoute.
Déboires et merveilles du couple pris en otage par le ronflement. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Urbania. Dans le cadre d'un tournoi de hockey à l'adolescence, nous roulions en direction d'une grande maison d'époque où l'équipe allait passer la nuit. Dans l'autobus, je me régalais des légendes entourant Bob, le père de notre gardien de but, un colosse bien en chair, détenteur du titre du plus grand ronfleur de la région. Des histoires mythiques de tournois antérieurs où il réveillait des motels entiers et où la police débarquait au milieu de la nuit pour des ronflements si caverneux et puissants qu'il semait la désolation partout où l'équipe s'arrêtait. Digne d'un héros du réalisme magique littéraire, on pouvait effectivement, le soir venu, entendre son vrombissement à des kilomètres. Mes coéquipiers et moi nous cachions sous les draps, hilar, l'oreiller pressé sur les tympans, incapables d'amortir l'infâme douleur sonore. Les années ont passé et les coéquipiers d'autrefois sont devenus les ronfleurs d'aujourd'hui. En chalet avec des amis, ce n'est plus le confort ou la largeur du matelas qu'il faut chasser en s'installant, mais bien la position géographique la plus éloignée des tracteurs de la nuit. Tout le monde possède au moins une histoire digne de conte folklorique, que ce soit une vilaine expérience de dortoir dans une auberge de jeunesse ou une nuit sans sommeil lors d'un camping bien arrosé. Mais personne n'en parle si ouvertement lorsque le ou la coupable est la personne qui partage son lit. En grattant le sujet auprès de mon entourage, j'ai même essuyé plusieurs refus avec l'impolitesse que les vieilles amitiés confèrent. J'en suis venu à me demander si la chose n'était pas un plus grand tabou que l'on imagine. J'étais surtout curieux de connaître la relation que les femmes et les hommes entretiennent avec leurs conjoints et conjointes qui émettent un spectacle aussi bruyant que récurrent. J'ai donc poussé mes recherches afin d'offrir une rare tribune à ses compagnons de l'ombre. Sachez que les prénoms ont tous été modifiés pour ne pas déclencher de grandes guerres nuptiales que je ne pourrais me pardonner. Alexis a eu le courage de me parler de sa situation. « On se sent prisonnier d'une malédiction sans issue, lance-t-il. Le matin, on est habité par la culpabilité en réalisant que sa blonde a déménagé dans le salon, ou que les amis sont déjà à l'étage, à vif et les yeux bouffis, alors que tu descends les escaliers à siffler gaiement comme si de rien n'était. » Le ronfleur, malgré toute sa bonne volonté, s'impose parfois avec violence. Christine, qui est célibataire, me confie qu'elle ne croit pas être en mesure de tomber en amour avec un ronfleur. Je tiens mordicus à la qualité de mes dodos et j'aime trop les accolades pour faire chambre à part. Une réalité pourtant vécue par près de 10% des couples québécois. Même son de cloche chez Anne-Julie, qui me précise sa hantise de découvrir chez l'élu un fléau indomptable. Je peux dormir n'importe où, n'importe quand. Mais à la seconde où j'entends ce son, impossible que je puisse fermer l'œil. « Et ce sont toujours les premiers à s'endormir », déclare-t-elle avec une pointe de venin dans la voix. À écouter ces premiers témoignages, je ne peux qu'avoir de l'empathie pour le ronfleur ou la ronfleuse, qui est, après tout, un ennemi innocent victime d'une condition incontrôlable. Entretenir une légère indignation et fermer la porte d'emblée à une romance en raison d'un impondérable est fort malheureux, mais somme toute compréhensible à entendre l'écho de Bob qui revient me pourchasser. Son épouse était soit sourde, soit une sainte. En réalité, elle dormait dans une autre chambre depuis des années. En faisant quelques recherches, il est étonnant de constater à quel point le phénomène est extrêmement courant. Il se rencontre chez environ 44% des hommes et 28% des femmes âgées de 30 à 60 ans. Il y a certes des facteurs aggravants qu'il est possible de contrôler, comme le tabagisme, le coude léger, la prise de somnifères, la posture, le poids en trop, mais dans plusieurs cas d'étude, aucune de ces variables n'est présente chez le ou la principale concernée. Et malgré les risques comme l'apnée du sommeil, l'inconvénient majeur de ce tapage nocturne est subi par l'entourage. Samuel partage son lit avec une ronfleuse depuis quelques années. Ça m'incommodait un peu au début, surtout au début. Puis on s'y fait et, étrangement, c'est devenu attachant. J'aime le confort auditif de sa présence, savoir que mon amoureuse dort me fait du bien. Quelquefois, je vais mettre des bouchons, mais quand elle n'est pas là, je me surprends à trouver qu'il y a un vide dans la chambre à coucher, confesse-t-il, la voix pleine de papillons. Pour Nathalie, le sujet a pris une gravité plus difficile dans sa vie conjugale. « Je t'avouerai qu'on a tout essayé, » dit-elle. « C'est sûr que quand mon chum revient tard dans la nuit, disons que je le trouve moins attirant. Je lui ai déjà acheté un genre de mouthpiece pour diminuer les répercussions, mais ça lui était super inconfortable. Il a même testé un ruban qui te colle la bouche pendant la nuit. C'est une torture dormir avec ça. Et puis, il est gêné d'aller dans des chalets avec mes amis et de peur de créer l'émoi. C'est dommage, mais est-ce que ça nuit à notre union? Non, je l'aime et avec le temps, ça fait partie de nous. » Anthony habite avec son copain depuis un peu moins d'un an et malgré une svelte silhouette, son amoureux ronfle comme une tronçonneuse mal huilée. « Ça a un impact direct sur mon quotidien », souligne-t-il d'emblée. Quand tu es stressé, que tu es débordé par tes responsabilités professionnelles, tu ne peux pas arriver en réunion et t'excuser. « Désolé, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que mon chum ronflait. » Au début, je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas rester dormir. Je réalise maintenant que c'est vulnérabilisant, alors j'essaie de le supporter du mieux que je peux, mais ce serait mentir de dire que c'est toujours facile, conclut-il en précisant que c'est un petit handicap attachant. André-Anne semble, quant à elle, en paix avec le vacarme noctambule sous toutes ses formes. « J'ai grandi dans une vieille maison qui craque avec un père et une mère qui ronflaient. Ensuite, j'ai déménagé dans le centre de Barcelone, où les nuits chaudes sont pleines de bruit de diesel. Et depuis mon retour, je suis avec un ronfleur, disons-le, assez costaud. Les nuits silencieuses, je ne connais pas », raconte-t-elle avec une indifférence pleine de confiance. Certains et certaines gèrent donc cette position avec confort et apprécient cette douce houle réconfortante. Alors que d'autres, qui assistent contre leur gré à de longs DJ sets de dubstep, peuvent parfois considérer cette condition comme un obstacle. Les scénarios sont infinis et uniques à chacun chacune, mais à la lumière de ce maigre échantillon sur une réalité trop peu effleurée, je me dis que partager ses nuits avec une tempête est peut-être, en fait, l'une des plus belles preuves d'amour qu'il soit. C'était « Déboires et merveilles du couple » pris en otage par le ronflement, un texte de Jean Bourbeau, paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Urbania.
Proche aidante, les femmes font le gros du travail et elles sont fatiguées. Un texte d'Alexis Ross, paru le 1er février 2022 dans le magazine Pivot. Les soins délégués aux proches par le système de santé retombent d'abord sur les épaules des femmes, montrent les derniers chiffres de Statistique Canada. Les femmes sont surreprésentées parmi les proches aidants aidantes. Ce sont aussi elles qui offrent les soins les plus soutenus. Or, bon nombre d'aidants aidantes subissent des contre-coups sur leurs finances ou leur santé mentale et aimeraient bénéficier d'un meilleur soutien. C'est ce qu'indiquent les dernières informations rendues publiques par Statistique Canada. Les données, issues d'une enquête réalisée en 2018, demeurent similaires à celles des éditions antérieures. Cette année-là, un quart des Canadiens-Canadiennes de plus de 15 ans ont déclaré avoir fourni des soins à une proche. Les femmes représentaient un peu plus de la moitié, 54%, de ces aidants-aidantes. Elles sont aussi plus nombreuses parmi les personnes ayant fourni des soins sur une période continue, tandis que les hommes étaient plus susceptibles de fournir des soins ponctuels ou intermittents. Enfin, les données montrent que la répartition des tâches est elle aussi genrée. Les femmes accomplissent plus souvent les tâches régulières, les soins personnels ou encore les traitements médicaux, alors que les hommes aident davantage pour le transport ou l'entretien du domicile. Un quart des Canadiens, Canadiennes, qui se retrouvent proches aidants, aidantes, c'est énorme, lance Nathalie Désiel, directrice du regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, RAANM. Ça représente bien le manque de soins qu'on offre à notre population. On aime bien ça, renvoyer les gens rapidement à la maison, mais on ne propose pas assez de soutien à domicile. On délègue. C'est un modèle social qu'on entretient depuis longtemps et qu'on propage encore dans l'éducation, critique-t-elle. Notons que plusieurs personnes offrant des soins à une proche peuvent sous-estimer leur implication en tant qu'aidant-aidante, comme le rappelait le Conseil du statut de la femme dans une analyse en 2018. En raison des standards différents entre les genres, les femmes seraient particulièrement à risque de sous-évaluer le temps mis dans les tâches de soins, toujours d'après le Conseil. De lourdes responsabilités. Or, ce sont aussi les aidants-aidantes consacrant le plus de temps à ce rôle, 20 heures et plus chaque semaine, qui vivent le plus de répercussions négatives selon les données de Statistique Canada. Les trois quarts, 75%, avaient moins de temps pour se détendre et s'occuper d'eux-mêmes. Environ la même proportion, 78%, avaient dû sacrifier du temps pour les activités sociales ou les amis. Plus de la moitié, 54%, considéraient aussi que leur responsabilité d'aidant-aidante était stressante ou très stressante. Les aidants-aidantes ont une grande responsabilité entre leurs mains, souligne Nathalie Désiel. Ils et elles doivent aider une proche avec ses besoins de base, comme se nourrir, se laver et se loger. Souvent, il faut aussi obtenir et gérer des rendez-vous, assurer le suivi auprès des différentes intervenantes au sein du système de santé, voire procurer soi-même des soins médicaux, comme des injections quotidiennes ou l'entretien de pansements, illustre Nathalie Désiel. C'est une job technique. C'est le travail que font les préposés aux bénéficiaires qui ont suivi une formation, insiste-t-elle. Plusieurs personnes aidantes vivent de l'isolement social parce qu'elles ne se donnent pas droit à des moments de détente ou de congé, témoigne la directrice du RAANM. Cela est particulièrement vrai pour les aidants-aidantes qui prennent soin d'une personne à la maison, comme un conjoint, une conjointe ou un enfant, indique-t-elle. C'est du 24/7. Il faut toujours que tu sois alerte. Des aidants-aidantes qui ont besoin d'aide. Dans le cadre de l'enquête de Statistique Canada, plusieurs personnes aidantes ont déclaré qu'elles auraient eu besoin de davantage de soutien. Parmi elles, 40% auraient voulu un meilleur soutien à domicile et plus des deux tiers, 68%, auraient désiré un soutien financier, une aide gouvernementale ou des crédits d'impôt. On voit de l'appauvrissement chez les proches aidants qui doivent parfois manquer du travail au point de perdre une part significative de leurs revenus, confirme Nathalie Désiel. Selon elle, les crédits d'impôt provincial et fédéral actuellement existants sont insuffisants parce que les critères d'accès sont trop restrictifs. Quant à l'aide à domicile offerte par le système public, elle devrait impérativement être bonifiée selon la directrice du RAANM. Le tout dernier plan d'action québécois pour les proches aidants aidantes marque une bonne reconnaissance de leur travail, mais il faudra faire le nécessaire pour être à la hauteur de cette reconnaissance, propose Nathalie Désiel. Vous avez écouté Proches aidantes, les femmes font le gros du travail et elles sont fatiguées, un texte d'Alexis Ross, paru le 1er février 2022 dans le magazine Pivot.
L'art au secours des enfants ukrainiens. Un texte d'Alban Buriel paru le 28 avril 2022 dans le magazine La Conversation. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, 4,3 millions d'enfants ont été déplacés, soit plus de la moitié de la population enfantine du pays, estimée à 7,5 millions, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ce chiffre comprend plus de 1,8 million d'enfants réfugiés qui ont franchi les frontières pour s'exiler dans les pays voisins et 2,5 millions qui sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. C'est l'un des déplacements d'enfants à grande échelle les plus rapides depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'entre eux sont soumis à d'importants stress et vivent des traumatismes liés à la guerre. Pour les aider à surmonter cette période tragique de leur vie, les pratiques artistiques ont fait leurs preuves auprès de jeunes réfugiés à travers le monde. Candidate au doctorat en éducation et membre du CREAD, Centre de recherche sur l'enseignement, les apprentissages et la didactique, je suis spécialiste de l'action humanitaire, des pratiques artistiques pour favoriser le bien-être et de l'éducation en situation d'urgence et en contexte d'adversité. Je suis aussi conseillère et formatrice auprès de travailleurs humanitaires. Les pratiques artistiques, une réponse humanitaire. L'art devient ainsi, à travers l'action humanitaire, une manière de préserver la vie dans la dignité et de maintenir des valeurs fondamentales telles que la coopération et la solidarité. L'art est utilisé tant dans la protection de l'enfance, dans l'éducation, que dans le soutien psychologique, notamment au travers de l'art-thérapie. La reconnaissance des nombreux avantages et de la pertinence de l'utilisation des pratiques artistiques par les ONG lors d'urgences humanitaires est unanime. Des activités telles que le dessin, la danse, le chant, le théâtre et diverses formes d'art-thérapie aident les enfants à surmonter leurs expériences et certains des traumatismes de la guerre en les extériorisant. De nombreuses études ont été menées sur l'amélioration du bien-être des enfants à travers les activités artistiques, et notamment pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique. Selon les types de programmes, l'art peut contribuer à soulager les symptômes de l'anxiété, distraire de pensées négatives et peut aider à exprimer des sentiments douloureux ou difficiles que les enfants ont du mal à mettre en mots. Après un mois de guerre, plus de 733 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits. La guerre en Ukraine a évidemment un impact sur l'ensemble du système scolaire et compromet le droit à l'éducation. Ne pouvant plus aller à l'école, les enfants n'ont plus de routine ni de sentiment de sécurité. Des activités artistiques structurées, significative et créative dans les écoles ou les espaces d'apprentissage non formels améliorent leur bien-être émotionnel et comportemental. Le dessin comme témoignage pour porter les voix des enfants. Depuis l'invasion de l'Ukraine, plusieurs médias ont décidé de faire entendre les voix des enfants afin d'illustrer les réalités de la guerre. Ainsi, le Washington Post, The Guardian ou encore Euromaidan Express présentent des dessins d'enfants déplacés et réfugiés. Ils dessinent leur soutien aux forces ukrainiennes et les horreurs qu'ils ont vues, leur départ du foyer, le voyage en train et les séparations douloureuses à la frontière. Les activités artistiques dans le quotidien des enfants. Dans de nombreuses régions d'Ukraine, des parents se regroupent et organisent des activités artistiques pour leurs enfants. Par exemple, des volontaires de l'ensemble de chant et de danse Sonechko à Lviv ont organisé plusieurs séances d'art pour des enfants. Des bénévoles soutenus par l'UNICEF mettent en place des espaces consacrés au dessin d'enfants dans les stations de métro. Des enseignants et des psychologues y travaillent quotidiennement avec les jeunes dans un cadre formel ou pas. Des initiatives liées à la santé mentale et aux services psychosociaux, MHPSS, de l'ONG Proliska, soutenues par l'UNICEF, vise à fournir du matériel créatif et artistique afin d'équiper les espaces dédiés aux enfants dans 3 stations de métro de Kharkiv. L'ONG War Child Holland forme des organisations ukrainiennes au premier secours psychologique et aux services de santé mentale afin de créer des espaces de sécurité pour les réfugiés. Des projets comme YouCreate œuvre au renforcement de la santé mentale des jeunes grâce à des activités créatives. L'initiative mobilise des adolescents de l'Est de l'Ukraine qui conçoivent et mettent en œuvre des projets artistiques dans leur communauté. L'ONG ukrainienne Voices of Children propose aussi des ateliers d'art-thérapie. Il s'agit d'aider les enfants à décrire leurs émotions, leurs expériences et leurs peurs à travers les arts visuels. Le projet comprend une dizaine de séances d'art-thérapie une ou deux fois par semaine. Il combine le travail de groupe et le travail individuel où les enfants libèrent leurs émotions et leurs sentiments complexes sur le passé, le présent difficile et le futur incertain. Ces interventions d'urgence à travers les pratiques artistiques sont à encourager et à structurer davantage. Il est essentiel d'en comprendre les différents usages et d'en évaluer les effets et les impacts sur les enfants. C'était « L'art au secours des enfants ukrainiens », un texte d'Alban Buriel paru le 28 avril 2022 dans le magazine « La Conversation ». Bien manger à petit prix. Un texte d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, paru dans le magazine Bel Âge. Inflation à l'horizon. Une augmentation totale du coût des aliments de 5 à 7% est prévue cette année. Selon une enquête de Statistique Canada menée du 19 avril au 1er mai 2022, plus de 2 Canadiens sur 5 ont déclaré que la hausse du prix des aliments est celle qui les affecte le plus. On estime que chaque famille dépensera 1 000 $ de plus cette année en denrées alimentaires. Voici quelques trucs pour bien manger à petit prix. On planifie. Une bonne organisation sur le plan alimentaire veut dire faire régulièrement l'inventaire du garde-manger, du frigo et du congélateur afin d'éviter d'acheter des ingrédients en double. Prévoir les menus de la semaine en fonction des aliments frais à consommer rapidement. Consulter les circulaires afin d'y repérer les bons achats. La viande est à bon prix, on en achète plus et on la congèle. On adopte les protéines végétales. la viande a connu une hausse de coûts significative. On économisera considérablement en la remplaçant de temps à autre par des protéines végétales. Les légumineuses, surtout sèches, la protéine végétale texturée, PVT, et le tofu sont économiques et bons pour la santé. À titre comparatif, dans un repas constitué de 20 g de protéines, il en coûtera 1,98 $ pour 100 g de bœuf haché extra maigre, contre seulement 42 sous pour une quantité équivalente de PVT achetée en vrac. On privilégie les aliments non préparés. Un poulet entier revient à 77 sous pour 100 g de viande, alors que des poitrines parées et désossées se détaillent à environ 2,20 $ pour la même quantité. De même, un filet de porc mariné coûte 30% plus cher que sa version non aromatisée. C'est payant de cuisiner ses soupes, ses muffins, voire son bouillon maison. On prend aussi le temps d'apprêter ses fruits et légumes. En effet, un ananas coupé en morceaux à l'épicerie est vendu 50% plus cher que le fruit entier. On priorise les forbats réguliers. Le prix des portions individuelles est toujours plus élevé. Par exemple, la portion de gruau tirée d'un sac de 1 kg reviendra 60% moins cher que si elle provient d'un sachet individuel. Même constat quand il s'agit de yogourt ou de fromage, par exemple. On mise sur le zéro gaspillage. Une famille canadienne moyenne jette plus de 1 100 $ de nourriture par année, soit l'équivalent de 140 kg d'aliments. D'où l'importance de bien planifier, de dresser une liste d'épiceries, d'acheter en vrac, de cuisiner toutes les parties comestibles d'un aliment et de revaloriser les restes. C'était « Bien manger à petit prix », un texte d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, paru dans le magazine Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Luc Mercure, Lynn Lamarche et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Hartmann à la présentation et au montage.